Bah, on va aller au palais, un autre palais, c'est le palais Bourbon. On va retrouver là-bas dans un instant Mathilde Panot, la présidente du groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu un échange assez vif entre Mathilde Panot et le chef du gouvernement, Sébastien Lecornu, sur la mort de la petite Liana. Les moyens, c'est le reproche de Madame Panot, que le gouvernement ne met pas pour lutter contre la violence faite aux femmes et aux enfants, et la réponse sur le cynisme politique faite par le Premier ministre.
Que restera-t-il de ce drame ? Que restera-t-il sinon un président de la République niant la réalité du manque de moyens ? Que restera-t-il sinon un ministre de la Justice prêt à jeter les magistrats par-dessus bord pour se maintenir en poste ? Vos gesticulations sécuritaires n'empêcheront pas les crimes, les moyens financiers. Si, mettez cet argent sur la table maintenant.
Que restera-t-il, dites-vous ? Il ne faudrait pas qu'il ne reste que de la récupération politique de ce drame. Le seul fait qu'on ne puisse pas débattre sereinement et calmement dans cet hémicycle de ce sujet donne quand même une indication très claire de vos intentions politiciennes. Le gouvernement veut avancer, il avancera. Mais que restera-t-il ? Et c'est un moment de vérité. Soit une volonté de récupération politicienne, car malgré tout, Madame la Présidente Panot, c'est ce que j'ai cru entendre dans votre question. Soit vous ne le souhaitez pas. Soit vous ne le souhaitez pas sincèrement, sans cynisme, ce qui nous permet ici de légiférer en droit et de rendre les semaines qui viennent utiles pour la nation sur ce sujet, et auquel cas le gouvernement de la République répondra présent.
Monsieur le Premier ministre, dans la France de Macron, le planning familial licencie. C'est ça la réalité. Assumez vos responsabilités politiques, mettez les 3 milliards.
Flagrant délit de récupération, quel est le rapport entre l'affaire Liana et le planning familial ? Soyons précis. Soyons sérieux, mais de grâce, stop à votre cynisme.
Bonsoir Madame Panot, présidente du groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale.
Bonsoir.
Vous êtes en direct avec nous du Palais Bourbon, donc c'est de la récupération cynique. C'est ce que vous a dit le Premier ministre, que vous avez fait aujourd'hui dans les travées de l'Assemblée.
Monsieur le Premier ministre nous reproche de faire de la politique. Nous lui reprochons de ne pas faire une politique globale de lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants. Et depuis plus de 20 ans, des associations demandent à ce qu'il y ait des lois cadres pour justement diminuer les violences qui sont faites aux femmes et aux enfants. Car depuis la mort de Liana, il y a eu un concours Lépine qui sont des discours de surenchère à la fois pénale, de retour de discours sur la peine de mort. Et on ne parle jamais de ce qui devrait être le cœur de notre discussion politique et médiatique, comment éviter en France en 2026 que des enfants soient tués parce qu'enfants, que des femmes soient tuées parce que femmes, que des enfants et des femmes soient violés. Et il n'y a aucune fatalité dans ces violences, l'Espagne l'a prouvé, parce que lorsque l'on met à la fois les moyens et la volonté politique, alors on réduit drastiquement les féminicides et les violences qui en sont faites. Donc il y a une responsabilité politique du Premier ministre qui est au pouvoir depuis 9 ans aux différents postes de la Macronie et qui n'a pas voulu mettre les moyens qui sont demandés par les associations de terrain, pour l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, pour la justice, pour la police judiciaire, bref, pour faire en sorte qu'on arrête ces violences qui sont faites aux femmes et aux enfants. Donc je trouve sa réponse lamentable.
Mais cette passe d'armes cet après-midi à l'Assemblée nationale, est-elle vraiment à la hauteur de l'émotion qu'a suscité la disparition de cette petite Liana, une émotion qui a touché tous les Français, quel que soit, je pense, leur bord politique? Et peut-être que les Français attendent de vous, de M. Lecornu, que vous trouviez des réponses consensuelles et collectives, et pas faire effectivement un peu de la politique politicienne. Et je vous dis ça à vous, mais je pourrais dire ça aussi au Premier ministre. Est-ce vraiment à la hauteur, en fait?
Alors, ce n'est pas nous qui faisons de la politique politicienne, c'est la réponse du Premier ministre qui est politicienne. Je rappelle que nous connaissons les solutions depuis longtemps et que les manifestantes, puisque c'était principalement des femmes qui étaient dans la rue, disaient lundi après lundi, plus jamais ça, plus une de plus. C'est ça que tout le monde redit. Parce que s'il n'y a pas les moyens qui sont mis,
mais le Premier ministre est d'accord avec vous, tout le monde est d'accord avec vous.
Alors malheureusement, il y aura d'autres Liana. Non, tout le monde n'est pas d'accord avec nous. Parce que sachez que depuis chaque année depuis 2017, nous présentons un amendement au budget, c'est-à-dire le fait de rajouter au budget les milliards que demandent les associations. Et chaque année, année après année, soit le budget est passé par 49.3,
c'est seulement une question
sans ces milliards qui sont nécessaires,
budget, en fait.
Soit ils sont rejetés par la Macronie. Écoutez, ce n'est pas qu'une question de budget, vous avez vous avez raison, il y a aussi une question de volonté politique. Vous savez que dans les circulaires qui demandent aux magistrats de prioriser les affaires qui sont faites contre les violences faites aux enfants, la seule circulaire qui existe, qui donne comme priorité numéro une les violences faites contre les enfants, date du 8 juin, c'est-à-dire malheureusement en plein drame Liana, et il y a eu 114 circulaires depuis 2025. Vous savez, ce n'est pas de la politique politicienne que nous sommes en train de faire. Ce que nous sommes en train de faire, c'est relayer ce que demandent des associations depuis des années, les collectifs à la fois féministes et enfantistes qui disent depuis des années qu'il faut ces moyens pour la justice, pour la police, pour l'aide sociale à l'enfance. Il y a eu de nombreuses alertes et je rappelle que déjà en 2023, la CIVIS donnait 82 recommandations dont 75% d'entre elles sont toujours lettres mortes. Nous savons comment faire pour réduire les violences, voire éradiquer les violences faites aux femmes et aux enfants, mais pour cela, il faut les moyens et la volonté politique.
On a un ancien membre de la CIVIS avec nous, Bruno Ketel. Vous doutez de la volonté du gouvernement.
On a aussi Arnaud Gallet qui est avec nous, le président
de lutter efficacement contre les violences faites aux femmes et aux enfants, comme le dit Madame Panot.
On doute, certes, de manière factuelle, quand il n'y a que trois préconisations qui sont reprises sur 82, forcément, c'est problématique. La vraie question, pour moi, là où il y a faute lourde au niveau du gouvernement, c'est qu'il y a un rapport qui est remis en 2023 qui dit que vous avez 160 000 enfants qui sont victimes chaque année de violences sexuelles, un enfant toutes les trois minutes, qui dit qu'il n'y a que 3% des agresseurs qui sont condamnés, moins de 1% en cas d'inceste. Et on a l'impression systématiquement de découvrir et de se dire non, en fait, c'est un cas unique. Donc, on est dans une société du déni. Et ça, c'est ça, en fait, qui nous fait douter.
Mais les condamnations, c'est pas le gouvernement, c'est la justice.
Oui. Mais après, là où je veux pas dire que je nuancerais, c'est vrai qu'on a besoin de volonté politique. Après, ce qui se passe, ça s'explique d'un point de vue culturel. C'est-à-dire que très souvent, et le gouvernement, malheureusement, réagit comme ça. Ça a été dit aussi au niveau de la CIVIS. On protège pas les enfants, 8% des situations uniquement où les personnes ont bénéficié d'un soutien social positif. Donc le gouvernement est pris en fait dans cette culture-là, et c'est pour ça que je suis assez d'accord. Il faudrait qu'il y ait un consensus, faut qu'il y ait un sursaut en fait culturel. C'est ce qu'appellent les Français. Alors moi je nuancerais un peu, je dirais à Mathilde Panot, oui, il y avait beaucoup de femmes, je pense qu'il y a aussi beaucoup d'hommes qui étaient également présents, je le dis pas uniquement parce que j'y étais. Il y avait aussi des familles qui étaient quand même présentes.
Je rappelle, vous êtes cofondateur de l'association Bouve Enfant.
Ouais, tout à fait, et je pense que le meilleur appel plutôt que dire il y a peu d'hommes, je dirais faut appeler en fait la société à se déplacer. Vous voyez, moi je suis plus dans un côté positif, je suis pas dans le truc effectivement, moi je pense qu'on va y arriver. Je pense qu'aujourd'hui il y a un sursaut comme jamais effectivement, à savoir qu'il y a plus de 200 villes des rassemblements, c'est positif.
Il faut que ces rassemblements se poursuivre tous les lundis.
Poursuivre parce qu'ils disent quelque chose. Il faut aussi qu'on se structure, qu'on s'organise avec un message politique clair, sans récupération politique pour dire les choses de manière aussi qui soit transpartisane. Surtout que là, on est dans des périodes qui sont quand même assez chaudes avec l'approche des présidentielles. Et je pense que c'est essentiel.
Bruno Ketel, vous qui avez été député de la majorité, on n'a rien fait en Macronie sur cette question, parce que c'est ce que semble dire Mathilde Panot.
Non, mais moi, ça ne m'intéresse pas de polémiquer avec Madame Panot. Je pense que le sujet mérite mieux.
Oui, mais on veut savoir, les Français veulent savoir si effectivement, ces dernières années, on n'a rien fait.
Il y a eu, pendant 5 ans, j'étais rapporteur budgétaire, et notamment sur les pénitentiaires, un doublement du budget du ministère de la Justice. C'était manifestement insuffisant, mais les questions budgétaires ne suffiront pas à régler l'ensemble des questions qui nous intéressent aujourd'hui. Si seulement si ça suffisait, la vie serait un peu plus douce qu'elle n'est, malheureusement. Il faut une prise de conscience collective, c'est une question...
Mais la prise de conscience collective, je comprends pas...
Une volonté politique.
Ce que ça veut dire, parce que je pense que tous les Français...
Si vous me permettez de finir ma phrase, je pourrais vous dire ce que je voulais vous dire.
On entend beaucoup ça, mais tous les Français...
La prise de conscience collective, la prise de conscience collective, elle passe par les manifestations du lundi, je suis tout à fait d'accord, il ne faut pas qu'elle cesse, il faut que cette conscience collective amène le politique à prendre toutes les dispositions adaptées, non pas pour faire en sorte que demain il n'y ait plus de victimes, c'est malheureusement très compliqué à aborder de cette manière, mais faire en sorte que aucune famille ne se sente abandonnée par la puissance publique, par la justice, par les services sociaux, dès lors où elle est concernée. Et enfin, il faut surtout, je crois, avoir conscience que vous avez une addition de cas individuels, de dossiers individuels, qui porte aujourd'hui le débat sur la place publique après un drame terrifiant.
Mais qui a montré dysfonctionnements de la justice aussi. Est-ce qu'elle est à la hauteur, la justice?
Alors, manifestement, la justice a eu des failles. Les rapports de l'inspection, qui, je crois, n'ont pas encore été rendus, le diront. Et le ministre a été assez clair sur ce point de vue-là, je parle de Darmanin.
Mais on a l'impression que ça continue. Pardon, hier, dans le périscolaire, il y a eu un des premiers procès importants.
J'ai vu ça comme vous et j'ai été choqué comme vous.
A été relaxée. Ce qu'on raconte ici sur les plateaux, finalement, ça ne change rien.
Pas suffisamment caractérisée.
La chancellerie nous donne des chiffres sur les moyens alloués à la justice. Il nous dit qu'entre 2012 et 2017, le budget de la justice était de 30 milliards d'euros. Entre 2022 et 2026, il est passé, ce même budget, à 48 milliards d'euros. Certes, mais néanmoins, quand on écoute les magistrats aujourd'hui, et notamment par exemple les procureurs qui sont les premiers sur la ligne, qui sont ceux en charge des poursuites, qui peuvent décider quand il y a une plainte qui est déposée, est-ce que j'ouvre une enquête ou est-ce que je classe ensuite cette enquête? Et on sait que 64% des enquêtes qui sont ouvertes concernant des faits sur des mineurs, notamment grâce au travail de la Civis, on le sait aujourd'hui, c'est 64% de classement sans suite. Les procureurs disent aujourd'hui, nous sommes 3 en France pour 100 000 habitants, même si les budgets ont augmenté. En Europe, il y en a 11 pour 100 000 habitants. Donc, qu'est-ce que vous répondez aux magistrats qui disent, peut-être que vous avez augmenté les moyens rapport à de précédents quinquennats, néanmoins, ça reste insuffisant.
Je crois qu'il y a erreur sur la motivation de ma présence sur votre plateau. Moi, aujourd'hui, je suis avocat, je défends des familles de victimes. Je défends des parents et des enfants victimes. Donc, c'est dans ce cadre-là, aujourd'hui, que je me positionne et je combats tous les jours, dans le cadre de mon métier, les lenteurs de la justice que je subis, au même titre que les familles de victimes concernées et que les enfants concernés, petites filles et petits garçons, je tiens à le préciser. Maintenant, je crois sincèrement, comme citoyen, que s'il n'y a pas un avant et après le moment que nous traversons, les pouvoirs publics, dans leur globalité, failliront. C'est à eux qu'il revient aujourd'hui de faire en sorte que toutes les réponses adaptées soient posées, qu'il n'y ait aucune considération budgétaire qui viendrait s'y opposer, et que surtout, la magistrature, le parquet en particulier, puisse répondre à cette attente.
Justement, vous permettez simplement que l'on reste sur le cas de cet homme dont on parlait. C'était le premier procès dans le périscolaire. Les magistrats ont considéré qu'il aurait dû faire l'objet de rappels à l'ordre et d'une formation sans que ses agissements soient constitutifs d'une infraction pénale. Pour ceux qui n'ont peut-être pas suivi l'affaire, je vais quand même rappeler ce qui était dans son dossier. Le parquet avait révélé que...
Témoignage d'enfant. Hein.
Voilà, il appelait les enfants « mon bébé d'amour »,« ma délicieuse »,« mon cœur » pour les fillettes. Ensuite, c'était des câlins forcés. Il racontait des histoires mettant en scène des viols et des tortures. Il dessinait des personnages d'adolescentes hypersexualisés lors d'ateliers manga. Et trois des petites filles ont parlé d'attouchements sur la poitrine. D'après le parquet, ce n'est pas suffisamment caractérisé.
C'est horrible.
Il a été relaxé.
C'est horrible.
Non, c'est pas une question de moyens, là. Pardon.
Et là, c'est pas une question de moyens, une question, entre guillemets, de philosophie.
C'est quoi cette philosophie
par le parquetier concerné.
C'est quoi la philosophie?
Non, mais quand je dis philosophie, c'est d'approche de cette personne des questions qui lui ont été soumises.
Mais là, c'est même plus le parquet, là, c'est des juges du siège qui ont entendu cet homme et qui ont entendu les différentes parties, les enfants par la voix des parents, parce que les enfants n'étaient pas présents lors du procès, et qui répondent aujourd'hui au vu des éléments qui ont été amenés pendant cette audience. Et contrairement aux réquisitions du parquet qui avaient requis une peine, même si elle pouvait paraître assez faible,
avait requis une peine de prison avec
sursis, eh bien nous, juges du siège, nous décidons qu'il y a pas, que l'infraction n'est pas assez caractérisée.
Donc là, c'est plus une question de moyens.
Relax. Et relax, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que donc aujourd'hui, cet homme n'a pas de casier judiciaire, n'est pas inscrit.
Il peut continuer à être animateur.
Il peut continuer. Alors pas à Paris, puisque le maire de Paris a décidé que tout animateur qui serait suspendu, sur qui il y aurait des soupçons, ne peut plus travailler pour la mairie de Paris. En revanche, en dehors du périmètre de la mairie de Paris, il peut travailler en colonie de vacances.
Justement, à ce propos, est-ce que si jamais il y a le directeur d'une colonie de vacances, je ne sais quoi, qui veut se renseigner sur lui, tiens, il vient, il se propose, est-ce qu'il aura les moyens de savoir?
Il n'a pas été condamné.
Dans la presse,
il n'y a pas d'inscription otage, ni rien, ni quoi que ce soit.
Pour moi, il y a deux choses, en fin de compte. Déjà, on fait tous semblant d'être étonnés, déjà, de cette décision au niveau de la justice. Sincèrement, il y a eu MeToo Inceste en 2021 et Emmanuel Macron a répondu avec la Civise. Il n'y avait que des témoignages comme ça. Il y a eu du coup un seuil d'âge qui a été mis de non-consentement à 15 ans parce qu'on posait la question à des enfants. Est-ce que tu as été consentante à une relation sexuelle avec ton père? Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, le FIGES dont on parle, parce que ce fichier ou certificat d'honorabilité dont on parle beaucoup, il faut savoir déjà qu'au niveau du FIGES, sont inscrits de manière automatique toute infraction supérieure à 5 ans, et après ça va être déjà à la discrétion du magistrat.
Mais qui n'est pas consultable.
Attendez, j'arrive. C'est pour ça que nous, en fait, ce qu'on demande, c'est que à un moment donné, dans une situation d'urgence, toutes les personnes qui en France font l'objet d'informations préoccupantes, prend deux plaintes, deux signalements, deux plaintes qui sont en cours, etc., etc., deux condamnations, soit inscrites sur un fichier, parce qu'elles représentent un danger potentiel.
Consultable. Pour,
bah, bien sûr, consultable. Pas pour tout le monde, bien entendu, mais au moins consultable.
Appliquer une sorte
police.
De principe de précaution.
Non, mais ça pourrait être une catégorie supplémentaire du casier judiciaire.
Bien sûr.
Et ça serait pas complètement incohérent et incongru de faire en sorte que toute autorité supposée embaucher quelqu'un puisse vérifier.
Également les classements ensuite.
Ou lui demander d'attester si elle a été mise en cause sur ces questions.
Alors, en attendant, on voit bien que la pression politique est maximale sur le Premier ministre, sur le garde des Sceaux. On attend les résultats de l'enquête administrative. Est-ce que des têtes vont tomber? Est-ce que la procureure d'Auch va être limogée la semaine prochaine?
Ce que je trouve intéressant dans la séquence politique de cet après-midi, ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, c'est qu'on a le sentiment, et dans la question de Mathilde Panot, et dans la réponse de Sébastien Lecornu, que la pression, elle est aussi sur les épaules du Premier ministre. Et c'était peut-être un peu moins visible la semaine dernière, tant Gérald Darmanin, le garde des Sceaux, avait été visé et on avait demandé sa démission. Vous noterez tout à l'heure que Mathilde Panot, dans sa question, elle n'est plus là-dedans. Elle est sur le sujet des moyens. Mmh. Et on sait que ce sujet des moyens, depuis le commentaire à chaud, j'allais dire, d'Emmanuel Macron sur ce sujet, ça reste quelque chose de très présent dans le débat politique autour de cette affaire.
Sachant que M. Lecornu a un budget à préparer, là.
Exactement, Olivier, vous avez raison. Et d'ailleurs, il en parle de ce budget dans la réponse qu'il fait à Mathilde Panot. Il dit « Je forme le vœu que les moyens augmentent, comme vous, et que vous n'aurez pas le cynisme de brandir des menaces de censure sans autre discussion sur ce budget, parce qu'elle demande 3 milliards d'euros, c'est une somme
donc
conséquente. »
Donc ça sera l'un des enjeux de la discussion budgétaire.
Et que bien sûr, la discussion budgétaire sur le sujet de la justice, le sujet des aides aux associations, ça reste évidemment un sujet très important. Et à plus court terme, avant cette épreuve du budget à l'automne, il y a évidemment la pression de ce qu'il y aura dans les rapports de 3 administrations, l'éducation nationale, la police, la justice, la gendarmerie, la justice. Qu'est-ce qu'il y aura dans ces rapports? Comment Matignon en prendra connaissance? Quelles leçons tireront-ils là aussi à court terme? On devrait y voir plus clair en tout début de semaine prochaine. C'est le 22 juin, la date qui a été fixée.
En attendant, l'enquête se poursuit concernant le cas de Jérôme Barella. Et on va retrouver Julien Cressas en direct de Florence pour BFM TV, parce que vous êtes journaliste à Ligne Rouge pour nous. Et vous recueillez toujours des témoignages notamment d'une enfant, il faut en parler comme ça, qui côtoyait Jérôme Barella et qui a reçu des SMS de Barella.
Oui, bah écoutez, c'est une rencontre bouleversante qu'on a faite cet après-midi avec Régis Desconclois, celle de Lise, une fillette à qui Jérôme Barella a envoyé pendant plusieurs mois des dizaines de messages durant l'année 2025. Il était alors âgé d'une quarantaine d'années, elle de seulement 13 ans, et ils étaient tous les deux membres du club de Taekwondo d'Auch. Alors on a pu se plonger dans ces messages qui sont aussi bouleversants qu'intéressants sur la manière dont s'y est pris Jérôme Barella pour entrer dans l'intimité de la jeune fille, puisqu'il commence tout d'abord le soir par lui demander si elle dort. Le lendemain, au réveil, elle lui demande ce qu'elle compte faire de sa journée. Et puis très vite, Jérôme Barella, il va lui demander des photos de la jeune fille. Elle va le faire, elle va lui envoyer un cliché. Réponse immédiate très surprenante de Jérôme Barella qui lui dit « Ah, mais cette photo, elle date. » La preuve que tous les moyens semblent bons pour lui pour obtenir des photos de la jeune fille. Je vais vous donner un autre exemple. Au cours de la conversation, elle lui confie avoir attrapé des coups de soleil. Et Jérôme Barella va lui dire « Ah, montre-les-moi vite avant qu'ils ne disparaissent. » Alors Jérôme Barella, il s'est pas contenté de demander des clichés à la jeune fille, puisqu'il l'a aussi invitée, selon le récit de Lise, à 15 à 20 reprises pour des soirées pyjama ou des soirées ou des sorties à la piscine. Elle l'a confié à notre micro, je vous propose de l'écouter.
Il me dit, tu veux aller à la piscine à Solomiac demain après-midi? Que moi je lui dis que je pense pas que je peux.
Et ce jour-là, quand il vous invite à la piscine, ses filles vous ont mis au courant? Elles vous en ont parlé?
Non.
Donc l'invitation vient de lui?
Oui.
Combien de fois il vous a invité chez lui ou ailleurs?
Il m'a invité très souvent, je pense une quinzaine de fois à peu près. C'était vraiment, surtout dans les derniers mois, c'était vraiment presque toutes les semaines, quoi.
Il vous a notamment demandé à plusieurs reprises des photos de vous, en écrivant une petite photo avec un beau sourire. Comment vous réagissez quand il vous demande ça?
J'avais pas envie de lui envoyer, en fait, mais je me suis dit... je me doutais qu'il allait forcer avec ça et tout ça. Et donc je me suis dit, je lui envoie vite fait et après il va me laisser tranquille et voilà. Et toute façon, je l'ai bloqué pas longtemps après parce qu'il devenait vraiment trop intrusif. Je me dis que j'ai échappé belle. Parce que ça aurait pu vraiment aller loin et ça aurait été très grave, quoi.
Alors Lise est très choquée, hein. Elle nous a confié ces mots qui nous ont bouleversés avec Régis Desconclois. Elle nous a dit « j'aurais pu y passer, ça aurait pu être moi ». Elle dit aujourd'hui de manière extrêmement mature qu'elle souhaite porter plainte. Sa mère, pour l'heure, qui n'a pas souhaité témoigner, d'y réfléchir. Et une dernière information importante, la famille dit avoir adressé une demande aux gendarmes au début de l'affaire Liana pour être entendue. Ils ne l'ont toujours pas été à l'heure où je vous parle.
Julien Cressens avec Régis Desconclois, Florence Alexandre Gonzalez.
Oui, une petite précision, on a contacté l'avocate de Jérôme Barella pour savoir ce qu'il répond, est-ce qu'il nie être à l'origine de ces messages ou non, et elle n'a pas souhaité apporter de commentaires.
Merci messieurs, dames, d'avoir été avec nous.